C'est toujours un peu paradoxal que ce soit un prêtre qui parle de la patience conjugale, surtout à une époque qui favorise beaucoup le témoignage, l'expérience vécue. C'est d'ailleurs un paradoxe que vous retrouvez dans chacune des messes de mariage. Mais je rappelle que le prêtre ne parle pas en conseiller conjugal, il parle en prêtre. C'est-à-dire que je vais essayer de donner un éclairage évangélique sur cette réalité fondamentale de nos tentations d'impatience. Et je distribue presque le même polycopier aux couples et aux moines. Ce sont les mêmes principes qui permettent à un moine d'accepter son père abbé et à un mari d'accepter sa femme. Et bien sûr, à une femme d'accepter son mari. Vous attendiez, mesdames, à ce que je le dise. Rassurez-vous, vous ne serez jamais oubliés. Vous verrez même que la galanterie la plus élémentaire me fera parler plus souvent des impatiences provoquées par le mari que celles provoquées par la femme. La charité est patiente. La charité supporte tout. Vous avez remarqué que pour saint Paul, comme pour le bon sens populaire, la patience, c'est l'alpha et l'oméga de l'amour. Le support mutuel est vraiment le test fondamental de la charité, de l'amour vrai. Je vais d'abord rappeler que l'agressivité est quelque chose de bon, de fondamentalement bon, que la nature nous a donné. Saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, un siècle avant la présence des papes en Avignon, insistait beaucoup là-dessus. Il y a une bonne colère. Si Raoul Folleron n'avait pas été remué jusque dans ses entrailles par la façon dont les lépreux n'étaient pas soignés dans les ladreries d'Afrique, la journée internationale en faveur des lépreux fin janvier n'aurait jamais existé. Si Henri Dunant n'avait pas été remué par la façon dont les blessés étaient laissés sur le terrain, après la bataille de Solferino, la Croix-Rouge n'aurait jamais vu le jour. Et j'apprenais pas plus tard que ce matin qu'ici même en Avignon, un évêque s'est révolté au XIVe siècle parce que les États pontificaux, fermés sur eux-mêmes, ne laissaient pas sortir les prêtres porter les secours des sacrements aux pestiférés qui se trouvaient sur la rive d'en face, à Villeneuve-les-Avignon. Et Jean de Cousson, un évêque d'Avignon, a exigé qu'on le laisse passer le Rhône pour aller porter le Très-Saint-Sacrement aux pestiférés de l'autre rive. Et il est enterré dans la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Bonne colère. Ce qui est mauvais, c'est la crise de colère. D'ailleurs, vous avez remarqué que le langage français est très précis. Je suis énervé, je suis agacé, c'est un passif. N'allez jamais accuser à confesse d'être agacé par votre mari. Mesdames, ce n'est pas un péché, c'est une croix. Car le mari a beau être un merveilleux cadeau, c'est parfois un fardeau. Et la réciproque est toujours vraie. Donc, être agacé, être énervé, ce n'est pas un péché. Ce qui est mauvais, c'est se mettre en colère. Je me suis mis en colère. Et du coup, je me suis laissé aller, encore un passif, un pronominal qui exprime un acte libre. Je me suis laissé aller, n'est-il pas vrai, messieurs, à prononcer les paroles, peut-être même à faire des gestes que je suis le premier à regretter par la suite. Et vous savez, pour le dire tout de suite, que le grand inconvénient de la colère, c'est que ça risque de couper à jamais certains dialogues conjugaux. Il y a des sujets tabous qu'on n'aborde plus parce que monsieur prend la mouche, madame prend la mouche, et alors on n'en parle plus pour ne pas exciter la colère de l'autre. Voilà la présentation. Encore un mot, un petit peu de psychologie. Les psychologues ont repéré depuis longtemps le primus ictus irae, comme dit Sénèque dans son traité De Ira, le premier coup de la colère que vous ne pouvez pas imiter, surtout que vous ne pouvez pas contrôler, surtout si vous êtes émotif, si vous êtes soupolé, si vous êtes de tempérament colérique, comme on dit. La moutarde vous monte au nez et vous n'y pouvez rien. Eh bien, cela, encore une fois, ce n'est pas de votre faute. N'allez pas vous culpabiliser. Ce qui est mauvais, encore une fois, c'est se mettre en colère. La grande idée que je vais essayer de faire passer, et sans doute la seule que vous allez retenir, c'est qu'il faut bien distinguer en régime chrétien ce que j'appelle la thérapeutique à chaud et la thérapeutique à froid. Aussi longtemps que vous êtes en colère contre l'autre, mes chers amis, n'essayez pas d'employer la thérapeutique qui ne sera valable qu'à froid, quand la colère, quand le mouvement de colère sera apaisé. Je vais parler longuement de la thérapeutique à chaud, plus brièvement ensuite de la thérapeutique à froid, les deux parties de mon exposé. Donc, la thérapeutique à chaud, les conseils évangéliques que je vous rappelle, ce sont ceux qu'il faut appliquer lorsque, justement, vous êtes terriblement énervé par l'autre. Alors, je rappelle le hit parade des disputes conjugales, vous allez vous y reconnaître. Pas tout à fait quand même, il doit y avoir une spécialité dans les équipes Notre-Dame. Quel thème peut constituer, ne serait-ce qu'occasionnellement, un sujet de dispute dans votre foyer? Le temps passé devant la télé, 49%. Le choix des programmes, 37%. Les mauvais résultats scolaires de vos enfants, 29%. Les devoirs de vos enfants. Les critiques de votre conjoint sur votre famille, sa façon de conduire. Le partage des tâches ménagères, 24%. Votre belle famille, 22%. C'est quand même à cause de mes beaux-parents que ma femme a cette éducation-là. Et pourvu qu'elle ne reconduise pas la même chose avec nos enfants. Ses manies, 21%. Alors ça ne change pas suivant l'âge. Comme me disait une femme il n'y a pas longtemps, mon père, ça fait 25 ans que je suis marié, je crois que je vais enfin accepter que mon mari ne range jamais son pyjama. Et quelque temps après, elle me disait, il y a un progrès. Au lieu de laisser traîner sur une chaise de la chambre à coucher, il en fait une boule et il le jette dans le fond de l'armoire. Un progrès. Seulement, comment voulez-vous que nos enfants soient soigneux et ordonnés quand ils voient leur père agir de telle sorte? Etc. Bon. Alors, voyez, ça, c'est inévitable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, ne pas vous culpabiliser. Et j'ai beau le dire, j'ai beau l'écrire, je serais encore obligé de passer des quarts d'heure avec vous si jamais j'animais une retraite à laquelle vous participeriez pour bien vous l'expliquer encore en tête à tête. N'allez pas vous culpabiliser de vos croix. N'allez pas vous culpabiliser de souffrir de cela. Je prends tout de suite un autre exemple que la patience proprement conjugale. Combien de foyers parmi vous souffrent parce que l'un de leurs enfants leur donne de fameuses difficultés? Peut-être n'est-il pas marié à l'église, peut-être est-il en train de divorcer, peut-être vos petits-enfants ne sont-ils pas encore baptisés, et vous en souffrez, et c'est normal. Bien sûr que on dit faut accepter ses enfants tels qu'ils sont, faut accepter son conjoint tel qu'ils sont. Je suis tout à fait d'accord, on en parlera tout à l'heure dans la thérapeutique à froid, mais à chaud. C'est normal que vous en souffriez. Ça prouve que vous aimez vos enfants, vos petits-enfants. Une femme dont le mari est alcoolique, je vais lui dire qu'elle doit accepter son mari tel qu'il est. Qu'elle doit prendre ça avec humour. Je ne fais pas un exposé New Age, mes chers amis. Je prends tout de suite un exemple. Je respecte évidemment beaucoup tous mes contemporains qui sont très attirés par le New Age, mais je fais un exposé chrétien. Dans le nord de la France, une personne que j'estime beaucoup avait fondé dans sa ville une antenne de la communication non violente. Et elle me dit, vous savez, ce n'est pas confessionnel, mais ça peut beaucoup aider les gens à mieux communiquer à l'intérieur de leur entreprise, de leur famille ou de leur collège. La connaissant, je lui dis, ça doit être pas mal, car c'est une enseignante extra, comme on en voudrait beaucoup dans l'enseignement. Et puis, sentant que cet enseignement était un peu bizarre, elle finit par me faire une cassette sur laquelle elle repique les enseignements essentiels donnés de dimanche en dimanche. J'écoute cela dans ma voiture, première phase pas mal. Quand vous êtes agressé par l'autre, au lieu de réagir comme un chacal, vous réagissez comme une girafe. Un animal essentiellement paisible. Pourquoi pas? Deuxième phase. Oh, je me dis, elle avait raison de se méfier. Ici, ça sent le roussi, ou plutôt ça sent tout à fait le bouddhisme, que je respecte beaucoup, bien sûr. Le plus grand voyage que j'ai fait, je me suis même payé un voyage à Katmandou et à Bénarès pour aller voir l'hindouisme et le bouddhisme de près. Si votre mari vous quitte, madame, ne dites pas qu'il est infidèle, vous le jugez. Non, ne dites pas qu'il est infidèle, dites simplement, mon mari a des désirs que je n'arrive plus à satisfaire, voilà. Je réagis en girafe. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça a donné des merveilles de non-violence au cours des siècles. C'est l'hindouisme, c'est le stoïcisme en Occident. Si ta femme est morte, ne pleure surtout pas, prends-en une autre. Je ne méprise pas cela, hein? Mais c'est le despectus stoïcien. Tu prends de la hauteur, tu fais la girafe, tu n'es pas atteint par le mal. Alors, arrivé chez moi, je décroche mon téléphone et j'ai la chance de l'avoir tout de suite au bout du fil et je lui dis, madame, comme vous aviez raison de vous méfier, et je lui ai donné tout de suite un argument qui a fait tilt, regardez votre crucifix, lui dis-je, et voyez toute la différence entre un crucifix et une girafe. Elle a compris. Et l'antenne de la communication violente s'est cassée la figure. Jésus n'a pas fait la girafe au calvaire, ni à Gethsémani. Comme disent nos amis belges, il l'a eu difficile, c'était. Il n'a pas dû, Saint-Pierre va renier, mais c'était prévu dans le programme, ce n'est pas grave. Saint-Pierre m'a trahi pour 30 deniers, mais ce n'est rien. Non, non. Déjà, à Nazareth, on voit que Jésus était étonné par l'incrédulité de ses contemporains. Marc, chapitre 6, verset 6, un petit verset qui m'a toujours beaucoup aidé dans mes difficultés apostoliques.